Vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon poste. Colosse au micro, toujours prêt pour la riposte. Divise l'opinion à la butée Pascal. Te fais voir des étoiles comme un voyage astral. Sonné comme saut de Popinski sur le mescal. Le tour de la planète box sans escale. Le plus grand de tous les temps, la Mohamed Ali. Encore plus résilient qu'était Arturo Gatti. Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis. Tu vas finir au tapis, champion de catégorie. Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis. Gauche, droite, gauche.
En direct de mon 2,5 de Rosemont, Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurence écoute parler, le meilleur podcast en Amérique du Nord, selon mes parents. Bon, et au moins, il y a eux autres. Selon aussi Martine Vallabisson, par exemple. Bon, ils sont trois. Je dirais là, que je pourrais facilement partir un fan club à trois personnes. Peut-être même deux, ouais. Parce que mon père ne m'écoute pas. Fait que je dirais ma mère, Martine Vallabisson, ça fait deux que je sais qu'ils m'écoutent à chaque semaine. Il y en a aussi qui écoutent juste l'introduction parce qu'ils trouvent le reste plate. Donc, on est au lendemain de la victoire de Ryan Garcia contre Devin Haney. Je vais vous en parler de fond en large et de fond en comble. Mais, incroyable. Moi, j'aime écouter la lutte professionnelle, parce que à la lutte professionnelle, il y a des histoires, il y a des scénarios, il y a des revirements, puis il y a des intrigues. Ryan Garcia fait tout ça à lui seul. Il nous a monté un bateau où il nous a fait croire qu'il était un alcoolique. Il nous a fait croire qu'il était un adepte de la cocaïne. Il nous a fait croire qui avait 12 à 14 blondes en même temps, qui sortait avec des porn stars, qui voulait se suicider. Un soir, il fermait son Instagram en disant « Au revoir à tous ». Le lendemain, il était réapparu. Il arrive à peser avec une bière. Il cale une bière. Il rate le poids de 3 livres et demi en disant « Je suis ici pour la victoire. Je ne suis pas ici pour les ceintures ». De toute manière, Devin Haney va réhydrater de 30 livres et je ne veux pas être le maigrichon qui va se faire battre. Je viens ici pour prendre le zéro sur la fiche à Haney et non pas prendre la ceinture. Puis il y a quand même raison que à la boxe, quand tu commences à jouer dans le contre des boxeurs du top 10, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut dire « Ah, Crawford, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? » Tu sais, oui, il a unifié trois catégories de poids, mais tu sais, tu veux être celui qui brise son zéro. Là, Garcia, il n'a pas pris la ceinture à Haney. Puis Haney, il va en avoir encore dans sa carrière entre 18 et 25 ceintures différentes, OK? Mais le gars qui a pris son zéro, ça, tu ne pourras jamais l'enlever. Qui a pris le zéro de Devin Haney, ça changera jamais, ça. Puis, je suis impressionné. Puis, Garcia, pour le reste, mais écoute, tu nous as trollé, là. C'était un troll, Garcia, ça n'a pas de sens. La cocaïne, les menaces de suicide, la boisson, l'hypersexualisation, tout ça, LGBT+, en disant que tu ne savais plus si c'était un homme ou une femme. Tout ça pour battre Devin Haney samedi soir. Ah, il a même dit qu'il avait été kidnappé par des gens de l'élite quand il était bébé. Il n'y a rien qu'il n'a pas dit. Là. Un peu plus, puis il devenait ce que vous appelez un adepte de la Terre plate. Incroyable. On s'est fait mener un beau grand bateau, comme dirait mon ami Jerry Boulet. Donc, introduction. Aujourd'hui, dans le podcast, de quoi je vais te parler? Je te parlerai pas de la reconstruction du Canadien de Montréal. Je te parlerai pas non plus de la reconstruction de groupe Yvon Michel, mais je vais te parler des adversaires. Le groupe Yvon Michel, cette semaine, nous a lancé les adversaires de Kim Clavel et tout de suite, j'ai comme eu une étincelle dans la tête. Genre, ça fait ting. Moi, je suis mal fait, mais j'ai un cerveau construit pour la boxe. Mais je vous dis pas que j'ai raison. C'est juste que quand je regarde des adversaires ou je regarde des dénouements, ça m'intrigue et ça me fait avoir des réflexions qui sont peut-être bonnes, peut-être mauvaises. Vous ferez vos propres réflexions, mais moi, je vais vous dire ce que je pense parce que c'est mon podcast. Puis, vous ferez bien ce que vous voulez avec ça. Vous viendrez me pitcher des roches au coin de la rue. Donc, on va parler des adversaires de Kim Clavel, de Maslow McDonough. On va parler de la division des 168 livres qui a bouillonné cette semaine. Beaucoup d'histoires. Et dans toutes les histoires que je vais vous raconter, il y a un fil conducteur qui est Canelo Alvarez, Mauricio Suleiman, ainsi que Paco Valcarcel et les deux autres présidents d'association. Donc, aujourd'hui, les sujets, les 168 livres, Ryan Garcia, Yvon Michel a des adversaires. Après ça, on verra. Là, j'inventerai des segments aussi. J'ai plein d'affaires, je voulais parler. Plein d'affaires. Puis finalement, ça va être incroyable. Ça va être le meilleur podcast de ta vie. À la fin, David Saint-Martin va m'écrire pour me dire que j'ai sauvé son dimanche. David Alexandre Clapin va m'écrire pour me dire qu'il est dans il est dans un camion au travail puis que je lui ai rendu un 45 minutes sympathique. Martine Vallière-Bisson va m'écrire pour me dire que je suis son idole. Ça, c'est comme ça que le podcast va se terminer, dans la joie. Vendredi passé, il faut que je vous raconte ça juste pour rire. Là. Une fois par mois, j'aime briser la routine en allant dans un bar, en fêtant. Tu sais, j'ai 42, mais j'essaie de m'immiscer dans un crowd de 28 à 35 ans. Fait que j'étais avec mon ami Steve Vieira, pour le nommer. Steve Vieira, c'est un sympathique bonhomme. Il aime écouter le baseball. Il aime le basket. Il écoute du rap. Il est trilingue. T'sais, c'est vraiment un gars. Le charisme est élevé. Il a beaucoup de charisme. Donc là, moi, je fais un appel à tous sur mon groupe. Y a-tu quelqu'un qui veut aller prendre un verre? Je suis seul à la maison. Puis Steve lève la main. Puis on est allé au carré hockey ensemble. Puis. C'était mon idée. Là. Je l'ai amené dans un petit bar de quartier. Je l'ai comme piégé. Il n'y avait personne dans le bar de quartier. Fait qu'on écoutait le baseball. Puis on buvait une petite 50. Puis là, un moment donné, moi, je le savais. Là, le karaoké a commencé. Mais je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde. C'était comme plein à craquer. Fait que là, ben, on s'est comme fondu dans un petit peu dans l'ambiance. Ben, pas vraiment dans l'ambiance. Mais tu sais, on était là. On regardait les jeunes, les tendances, comment les jeunes étaient habillés. C'était des jeunes qui avaient l'air en santé. Puis là, on regardait le monde fêté. Puis là, on était comme des observateurs. Puis on a ri. On a écouté le sport à télé. On a écouté le monde chanter le karaoké. Puis finalement, ça nous a fait le plus grand bien. Ça a brisé la routine. Je suis retourné chez nous avec un mal de tête un peu parce que la petite 50, elle peut te casser une neurone, je vais te dire. Puis c'est ça. Ça m'a fait du bien vendredi de casser la routine. Donc, cette introduction vous était présentée par mes bons amis de FightNight.co. FightNight.co, c'est qui? Excellente question. C'est mon bon ami Benjamin Amel Théberge. Benjamin Amel Théberge, c'est le génie de la Mauricie. Benjamin, tu y donnes... Donne-y, mettons, un verre d'eau. Donne-y un après-midi, puis te transforme ça en vin. Un peu comme a déjà fait Jésus. Donc, présentement, tu vas sur FightNight.co. FightNight, c'est assez simple. Là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne pendant 4 mois, s'affilie à un gym de boxe. Et là, on trouve un adversaire du même niveau. Et là, tu réalises un exploit. En 4 mois, tu passes de, mettons, gras à musclé. Tu passes de pas entraîné à bien entraîné. Tu passes de t'être étourdi à attacher tes souliers à pouvoir courir un marathon et tu fais un combat de boxe, le tout supervisé par la FQBO dans la sécurité. Donc, tu vas sur fightnet.co, tu remplis le formulaire, tu t'inscris et tu boxes. Donc, c'est vraiment... Moi, j'adore ça. Là. Ça revient... Ça revient cet automne. Devrait avoir un gala un moment donné cet été, là. J'ai pas parlé à Benjamin, mais Benjamin, c'est assez simple. Il veut prendre le contrôle du Québec en entier. Fightnight.co, allez voir les archives pour écouter les derniers galas. C'est simple, c'est un combat de boxe olympique dans une ambiance de championnat du monde. Une foule en délire, dont moi qui hurle. Et tout le monde peut gagner parce que c'est des combats qui sont bien équilibrés. Donc, le party est toujours pogné. Juste rencontrer Sylvain Pelletier, là, mais ça vaut la peine. Donc, fightnight.co, le principal commanditaire de ton podcast préféré. Laurence Écoute Parler, qui est à la 273e édition, si ma mémoire est bonne. En direct de ton podcast préféré, enregistré dans un 2,5 de Rosemont, Montréal, il faut que je vous raconte ça. Mon ami Jonathan Giria, qui vraiment, ça, c'est un bel homme. Ça, c'est un très, très, très bel homme. Joe, il me fait toujours rire parce que souvent, je vais chiller chez eux, mais c'est plus comme je perds connaissance dans le sofa. Le monde, là, on va chez Joe, on fait des siestes dans le sofa. C'est un peu étrange. Hier, j'étais avec Joe, puis Gab Verrier s'est endormi dans le sofa. Donc là, vous connaissez tous mes amis. Je les ai toutes name-droppées en 4 minutes. Fait que vous les avez toutes, les noms, là. Fait que c'est mes amis, ça. Je suis assez fier d'eux autres. Fait que là, hier, tu sais, il y avait Ryan Garcia, puis là, je racontais ça à Joe, tu sais. Ils se sont affrontés 6 fois en boxe olympique. Ça a fini 3-3. Mais aujourd'hui, Garcia a rendu le bon Dieu. Annie a rendu le bon Dieu. Puis là, j'y raconte un peu l'histoire de Annie. On écoute le face-à-face avec les chaises à l'envers. Puis, je dis, oublie, là, Joe, il dit, ouais, mais y a-tu une chance, Garcia? Je dis, non, oublie ça, il va se faire ouvrir en morceaux. Ce qui est le fun, c'est que c'est à cause de ses problèmes mentaux. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. Il va-tu donner un coup de pied, mordre une oreille, vomir de la bière, tu sais. On ne sait pas, Ryan Garcia, il est fou. Tu sais, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Il a parlé des Illuminati. Il a dit qu'il avait été kidnappé par l'élite. Il parlait des complots. Il a joué comme le rôle des complotistes. Mais là, avec la victoire, je me demande s'il n'avait pas raison sur tout ce qu'il a dit. T'sais. Mais il nous a trollés. La commission athlétique a été obligée d'étudier son cerveau pour voir si c'était logique de le laisser monter sur le ring avec ce qu'il disait. T'sais, il parlait de suicide, de cocaïne, de bière. Ça n'a aucun sens, là. On était inquiets. Il rate la pesée de 3,2 livres, puis il boit une bière en montant sa balance. On va dire comme Martine Vallière-Bisson m'a dit, on est loin des électrolytes, là. Il buvait une bière. Je sais pas si c'était une Molson ou quelque chose. Peut-être une Labatt. Fait qu'on était inquiets, tu sais. Puis il y a eu beaucoup de propos erratiques, là. Ben, je ne sais pas si je devrais tous vous les citer, mais t'sais, lui, il a 18 millions d'abonnés sur ses médias sociaux, OK? Il y a eu un tremblement de terre à New York il y a 2 semaines. Mais ça a été que ça, le tremblement de terre. Lui, il disait que comment? Il disait qu'il avait été kidnappé du trafic de sexuel d'enfants. Il a parlé que il n'était pas un robot, que les gens voulaient qu'il soit un robot, mais qu'il ne l'était pas, qu'il consommait. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. T'sais. Puis là, il nous niaisait depuis le début, le tabarouette. Fait que les juges, il y a un juge qui vraiment il a envoyé des vénanés 3 fois au tapis pour gagner une majority decision. Il y a un juge qui a 112, 112. Un qui a 114-110, l'autre qui a 115-109. Parce qu'il avait raté le poids sur la pesée, il ne pouvait pas remporter le titre. Là, habituellement, quand tu perds en championnat du monde, quand tu perds, le titre tombe vacant. Mais là, Souleymane a dit que le titre appartenait toujours à Devin Haney et que l'aspirant numéro 1 était Sandor Martin. Garcia, après sa victoire, il déclare, et je cite, J'en ai rien à F foutre de ce que les gens pensent de moi. J'ai marché vers le feu et je suis sorti gagnant en battant Devin Haney. malgré que je suis un alcoolique qui boit à chaque jour. Je ne suis pas fier de moi. Je ne suis pas fier de dire que je suis un alcoolique. Mais j'ai gagné quand même. Vous ne pouvez pas niaiser avec moi. Ça, c'est des traductions libres, OK? Fait que c'est ça. Garcia, ça lui a coûté 600 000, OK? D'être 1 million et demi, je pense. 600 000 il y a deux jours, puis 1 million et demi en tout pour avoir raté le poids. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? La gauche, la main gauche. Garcia, ce qui arrive, là, c'est le bon Dieu avec offensivement. La vitesse, les mains, ça n'a aucun sens. Sa main gauche, il frappe très fort. Puis, il a réussi avec son crochet de la main gauche, littéralement, à changer le combat. Tu sais, avec les trois chutes. Garcia va lander sur la cible 106 coups de poing sur un total de 285 lancés, tandis que Annie, lui, va en lander 87 sur 214. C'est à peine si Garcia s'est servi de son jab. Il travaillait avec sa main gauche où il va lander 95 coups de poing de puissance contre 45. Vous voyez, c'est là ici que ça va jouer. Annie gagne 42-11 la guerre des jabs, mais Garcia gagne 95-45 la guerre des coups de puissance pour une réussite de 41%. Donc, cherchez pas midi à 14h pourquoi Garcia a gagné. C'est pour avoir réussi à lancer les coups de puissance. Maintenant, la suite des choses, c'est... Garcia, il est fou. En janvier 2021, il s'est retiré d'un combat contre Javier Fortuna parce qu'il dit « j'ai des problèmes mentaux ». Il a clairement des problèmes mentaux, mais il a clairement beaucoup d'argent à faire avec. Donc, est-ce qu'on va tenter de continuer à le faire boxer pour collecter malgré qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'on va le soigner? Est-ce qu'il va, je ne sais pas, rencontrer Jésus puis changer du jour au lendemain? Je ne le sais pas. Mais Garcia, il y a une seule défaite en carrière. Contre Gervonta Davis, il se fait knocker au 7e. Il va falloir donner à Davis le mérite qui y revient. 27 KO en 29 victoires professionnelles. Il a knocké Yuri Ortiz Gamboa, Leo Santa Cruz, Mario Barros, Rolly Romero, Ryan Garcia. Il a battu par décision Isaac Pitbull Cruz, qui est devenu champion du monde par la suite. Il va falloir qu'on se mette à genoux et qu'on se prosterne contre Gervonta Davis, qui est peut-être à une ou deux victoires, d'être sacré le meilleur 140 livres au monde. Parlant 140 livres, qui pourrait affronter maintenant Ryan Garcia ou qui d'Yvon Ané pourrait affronter pour se replacer? T'sais? Excellente question à la maison. Il y a Teofimo Lopez qui est l'autre champion. Dans les avantages que vous avez écouté le podcast, vous pouvez savoir des petites choses à l'avance. Alors, un petit secret pour ceux qui croient que c'était tombé à l'eau ou disparu. Non. On va vraiment avoir une annonce pour Steve Claguette contre Teofimo Lopez cette semaine. Vous l'aurez appris en exclusivité dans ton podcast préféré, Laurence Écoute Parler. En plus d'être gratuit, vous apprenez des choses. Sinon, on a aussi à 140 livres, à moins que je me mélange, là. Est-ce que Josh Taylor est toujours à 140 livres? Là? Je ne veux pas avoir l'air d'un pingouin qui dit n'importe quoi. Hein. Mais on a Maslow McDonny qui est parti en camp d'entraînement pour aider Josh Taylor qui se prépare. Oh non, c'est à 140. Qui se prépare pour affronter Jack Catterall. Fait qu'on pourrait aussi avoir dans tout ça le gagnant de Josh Taylor Catterall qui va venir s'immiscer. Donc, c'était ta situation à 140 livres avec, puis pourquoi pas, Gervonta Davis contre Lomachenko. Ce serait war. Lomachenko qui refuse personne, puis qui est vraiment un prize fighter. Donc, dans les autres sujets, les adversaires du groupe Yvon Michel, la situation à 168 livres, je vais te lire BoxRec, puis je vais te lire les nouvelles du sport. Vous êtes toujours à l'écoute de votre podcast préféré. Laurent s'écoute parler.
Maintenant, c'est la chronique boxe québécoise.
La douce voix de Martine Vallière-Bisson, encore une fois sur ton podcast préféré. Ce qui est le fun avec Martine, c'est que ça m'a juste pris 3 jours la convaincre de faire ce segment de 2 secondes. Martine, c'est l'intensité en personne, mais j'aimerais la remercier. Cette semaine, lundi, je suis allé faire ma prise de sang. Et moi, j'aime pas ça, les aiguilles. Là. Fait que Martine est venue avec moi, puis elle m'a épaulé. Elle m'a même aidé à faire mon pipi pour le test d'urine. Donc, merci Martine, très apprécié. Elle m'a aidé, là. Pensez pas bizarre, là. Elle a juste checké à la porte d'entrée parce que la toilette des gars était comme prise depuis longtemps. Fait que j'étais allé vite faire ça dans l'autre toilette. Puis Martine a juste surveillé la porte, là. Virait pas en peur avec l'aide, là. C'était mon anecdote. Puis après ça, on est allé manger une poutine déjeuner, OK? Puis ça, c'était bon, là. Je capotais. On est allé chez Mam Bolduc. Je pense que c'est Marianne puis Delormier. Mais je suis pas sûr. Vous irez voir sur Internet. Mon Dieu, que c'était bon, ma poutine déjeuner, là. Trois viandes. Des petites patates, sauce béarnaise. Un œuf tourné sur le dessus. Là, le jaune d'œuf coulait là-dedans. Tabarouette, c'était bon. Tellement bon qu'après ça, on a pris. Et puis, je vous compte ça, on a pris une petite marche pour digérer. On est arrivé face à face avec le stade de Lormier où jouaient les expos et où il y a eu 15 galas de boxe dans l'histoire, dont la fermeture du stade avec Robert Cléroux contre Georges Chevalot. Fait que là, on regardait la pièce d'histoire. On tourne d'une ruelle. C'est une ancienne rivière qui a été remplie pour mettre des maisons autour. La rivière de la ruelle. Et dans la ruelle, il y avait comme des photos historiques ou des... Un peu, pas vraiment des photos historiques, mais il y avait des espèces rares, je ne sais pas trop, mais des plantes, des arbres. On regardait ça et on était impressionnés. Quand je passe du temps avec Martine, j'oublie tous mes problèmes. On a appris cette semaine, il y avait une conférence de presse. Là, j'écoutais ça. Et ça fait longtemps que je fais du lobbying pour dire que Marie-Pierre Houle mérite sa première finale. Pourquoi? Marie-Pierre Houle vend énormément de billets. Mais par-dessus ça, Marie-Pierre Houle était aux premières loges quand il y a eu la COVID et le confinement et le fait qu'on n'avait plus le droit de rien faire. Marie-Pierre, elle, est partie avec un avocat, un jeune avocat vraiment sympathique, parfois sympathique, pas toujours, mais toujours compétent, par exemple, Philippe Farley, une superstar du droit. Ils sont partis ensemble à Québec pour convaincre Arruda que là, les boxeurs, il faut qu'ils boxent, sinon ils vont scraper leur carrière. Il était accompagné de Camille Estéphane et je ne sais pas si à l'époque, Maître Anthony Roodman était avec eux, peut-être. Mais ils sont partis, OK. Puis là, mon Philippe Farley, là, un avocat vedette, il avait des documents, puis il était vraiment préparé. Puis là, Marie-Pierre, allocution parfaite. Puis ils ont réussi à aller chercher un peu ce qu'ils voulaient, puis à sauver le sport. Donc, il y a ça. Ensuite, Marie-Pierre est allée contre Sandy Ryan. Mais Sandy Ryan, là, elle détruit tout le monde depuis ce temps-là. T'sais, elle s'est fait voler contre Jessica McCaskill. Elle a débâti Terry Harper. Et là, moi, je disais, Marie-Pierre mérite sa finale. Si Masloum a une finale, Kim apprend l'autre, il y a trois gars-là. Donnez-moi-en une à Marie-Pierre, s'il vous plaît. Ils m'ont pas écouté. Ils ont donné une finale à Germain, une finale à Kim, et là, une finale à Masloum. Moi, je chialais. Okay? J'écrivais à Yves Lévesque en privé. C'est un scandale. J'écrivais à Marie-Pierre. C'est un scandale. J'appelais Farley, Maître Farley. Je disais, c'est un scandale. J'allais chez mon ami Joe. C'est un scandale. Là, maintenant, là, je vous ai dit ça sur le podcast aussi. Aussi. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Avec ma grande influence, Yvon Michel s'est assis avec Yves Lévesque et le Casino Montréal. Et ils ont dit, Poulain nous met sous pression. On n'a pas le choix. Il faut donner une finale à Marie-Pierre Houle. Fait que là, ils ont regardé les dates. Et on dit, bon là, on a Eye of the Tiger. Il y a le Grand Prix. Mais regarde, on peut vous donner jeudi le 20 juin. Ils ont sauté là-dessus comme la pauvreté sur le pauvre monde. Et là, Marie-Pierre va affronter Carlos Ramos Zamora. Mais là, vous autres à la maison, je vous connais, ma gang. Ouais. Et ça, c'est mon imitation de vous autres à la maison. Elle a une fiche de 11 victoires, 10 défaites et une nulle. Mais c'est une Mexicaine de 30 ans qui a passé pro en 14. Fait que si je sais compter, elle a passé pro à 20 ans. On s'en fout de sa fiche. Ce qu'il faut regarder, c'est son momentum. En 2017, elle va perdre contre Vanessa Bradford. Split décision à Edmonton. Elle mérite un meilleur sort. En 2018, elle va perdre contre Erika Cruz Hernandez. Mais elle ne gagne pas un rond. En 2018, elle va se faire voler contre Marisol Cardona. Mais là, si tu pars de... mettons, tu prends 2020, OK? On va lâcher les années 10. Elle a battu Prisca Vico, la Française. Elle vient ici contre les Lobes Baudouin, elle gagne 4 rondes, 2 rondes sur 6. Tu sais, elle est là, elle est bonne. Elle va faire une nulle avec Magali Rodriguez. Mais là, elle va knocker Jessica Camara. Mais son fait d'arme, là, c'est qu'elle va knocker Erika Annabella Farias, qui est 9e au monde, puis qui c'est comme une petite vedette là, en Argentine, Farias. Elle s'est battue deux fois contre McCaskill. Elle s'est battue deux fois, elle a même battu Sandy Ryan. Elle va faire la limite avec Cecilia Bracus. Elle va battre Clara Svensson en Suède. Elle va battre Victoria Noelia Bustos. Fait que c'est comme la grosse affaire, là. Farias. Puis elle va se faire knocker violemment au 5e par Zamora. Là, j'ai appelé Léla Baudouin, puis j'ai dit, c'est quoi Zamora? Elle dit, mais c'est une fille qui est vraiment bonne à l'intérieur, à mi-distance, puis qui est sauvage avec les coups de tête, qui vend chèrement sa peau. Tu peux pas faire du corps à corps avec. T'sais. Il faut que tu boxes intelligemment. Puis Marie-Pierre, j'espère que tu m'écoutes parce que je vais te donner des conseils importants pour ton prochain combat. Marie-Pierre a tendance à boxer au niveau de son adversaire. Il y a des boxeurs comme ça qu'on sait qui sont meilleurs que l'adversaire, mais qui finissent par se compliquer la vie pour faire des combats difficiles. Contre Marisol Moreno, Marie-Pierre aurait très bien pu se ramasser avec un combat nul. Contre Cindy Reyes-Espinosa, Marie-Pierre aurait très bien pu se ramasser avec un combat nul. Elle passait à un juge de faire un combat nul. Là, elle a bien paru contre Marissa Joanna Portillo. Il ne faut pas que Marie-Pierre tombe dans le piège de boxer au niveau de son adversaire. Il faut qu'elle reste dans son plan de match, qu'elle reste loin, qu'elle la domine, qu'elle tombe pas dans une guerre de tranchées. Mais c'est le petit ring du casino. Vous l'aurez appris ici en exclusivité. Ça va être tout un combat. Et potentiellement, combat de l'année sur la scène canadienne. Yvon Michel nous a annoncé sa carte du 16 mai prochain. Maslow McDonnie va affronter Sébastien Ezekiel Aguirre dans ce qui est la finale. Un gaucher argentin qui a subi une seule défaite depuis 2016, c'est contre Steve Claguette, ici même. Je vais vous donner un autre scoop. C'est dangereux. Masloum est supposé gagner, mais je pense qu'on va avoir de la frousse. Puis je pense que Masloum n'est pas encore au niveau de Claguette. Fait que le gap va se fermer entre ce que Claguette a fait et ce que Agdenis va faire. Pas certain que c'est un choix d'adversaire très facile. Kim Clavel va affronter Catherine Renée Lindenmuth. Lindenmuth, elle a 34 ans, mesure 4 pieds 11. 24e sur BoxRec. C'est faible. Et le choix des adversaires de Kim me laisse prétendre qu'on veut que la voie soit excessivement facile pour Kim en attendant un appel pour retourner en championnat du monde. On veut pas risquer de scrap et rien, puis on veut pas aller sur des adversaires difficiles, même s'ils vont nous vendre l'idée qu'elle est donc bien compliquée, Lindenmuth. L'affaire avec elle, c'est qu'elle est très active, elle lance beaucoup de coups de poing, mais tu sais, quand même, là, ses victoires sont survenues contre des filles de début 0-1, début 4-4. Tu sais, début 0, début. Elle a battu une seule fois en carrière quelqu'un qui avait une victoire. Et là, ouais, mais Laurent, mais non, calcule-le comme tu veux. Elle a affronté une fille qui débutait, une fille de 0-1, une fille de 5... Non, elle a battu deux fois. Elle a battu une fille de 5-4 par split décision. J'ai rien à me mêler moi-même. Là. Mais c'est pas un gros char. Là. C'est une fille qui était dans la division en dessous à 102 livres. C'est une fille qui, dans la région d'Albuquerque, que son mari était un annonceur, il est décédé. Elle a 3 enfants. L'année après que son mari décède, elle va perdre son père et sa mère. Donc, elle n'a jamais voulu arrêter. Elle faisait du kickboxing depuis l'âge de 16 ans. Tonne d'expérience en combat. Décide qu'elle vire à la boxe. Se bat deux fois. Perd un combat contre Bustillo sur... la carte de Golden Boy, où tout le monde disait que c'était relativement serré, mais elle n'a pas gagné un round au juge. Donc, ben ce sera elle. Je crois qu'on met Kim sur la pente facile. Je crois aussi qu'on ne croit plus que Kim progresse ou atteint un plafond plus élevé. Je pense qu'on sait ce qu'on a avec Kim. On ne pourra pas l'amener plus loin parce que, comme tout le monde a vieilli, puis on espère retrouver un championnat du monde. Puis après ça, on va attendre puis on verra ce qui va arriver. Il n'y a pas de garantie que Kim bat une des deux filles qui l'a vaincue, là, parce qu'elle n'a pas de croissance. Elle n'a pas de... ne progresse pas. Tu sais, c'est plafonné, selon moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous m'écrirez. Je suis pas d'accord. Mais je crois qu'elle a plafonné, donc ça fait que... L'idée, c'est d'attendre que Bermudez ou Neri Plata téléphone pour une revanche, puis là, il arrivera ce qui arrivera. Abed Almoti El Safadi va affronter Marc Andrejev 2-0, un gars qui a battu du monde avec, l'adversaire Andrejev. Fiche combinée de ses adversaires, 0-0. On y va un peu. Peut-être un peu trop facile pour Safadi, je sais pas. Théo Wozu va affronter Zachary Loiseau dans un combat de locaux. Mais pas comme un local. Là. Pas deux salles qui s'affrontent. T'sais. Salle, local. Un local de réunion, comprenez-vous. Deux locaux, en voulant dire qu'ils y habitent ici. Un combat de Cironde, ça c'est intéressant. Hein. Loiseau est assez bon. Winobondo et Ayub Mani vont compléter le gala. Donc c'était... ta chronique, Yvon Michel. Et là, Yvon, ben on verra ce qui s'en va avec ça. Mais pas, c'est pas trois combats. C'est quand même des combats intéressants. Et je vous dirais, bien, à part Kim, c'est quand même bien matchmaké là, dans où ils sont rendus. Osley Iglesias, qui a une fiche de 10 victoires, 0 défaite, le Cubain. Seulement 26 ans, 6 pieds 2, 168 livres. Lui, ça sent le coup de circuit pour Eye of the Tiger. Il va affronter Evgeny Jvedenko. Jvedenko, 40e au monde, âgé de 33 ans, un Russe de 18 victoires, 16 victoires, une défaite et une nulle. Il a tout un fait d'armes. Okay? Il a battu Najib Mohamedi, il a battu Nouhou Lawal, il a battu l'alcoolique Maxim Smirnov. Et là, il va affronter l'aspirant numéro 1 de la IBF, William Skull, où il va gagner 3 rondes. Mais son plus gros fait d'armes, c'est alors qu'il est supposé se faire dévisser par Pavel Siliagin, aspirant numéro 1 et génie de la boxe technique. Il va et 16e sur BoxRec. Il va faire une nulle où il aurait dû gagner en Russie contre Siliagin. Si le gars est assez bon pour faire une nulle avec Pavel Siliagin, pour s'entraîner en Californie avec les meilleurs au monde, d'être signé par Eddie Croft, de se rendre à la fin avec le Cubain William Skull, une nulle avec Siliagin, c'est tout un test pour Osley Iglesias, qui est déjà 12e au monde. Et là, tout ça, ça mène à ma nouvelle chronique, les 168 livres, OK? Tout était calculé. Pourquoi? Parce qu'ici, on a Mbili, on a Bazinian, puis on a Iglesias. Là, commençons par le sommet. Le salaud à Saúl Canelo Alvarez va affronter James Munguia. Et là, on a appris cette semaine que David Morel montait à 175 livres, où il obtenait un titre WBA régulier, parce que le gagnant de Beterbiev Bivol va être promu WBA super ou franchise. Donc là, tu as David Morel qui monte à 175 contre Radivoj Kalajvic. Le titre n'est même pas encore vacant. À 168 réguliers, qu'on apprend que Edgar Berlanga est l'aspirant numéro obligatoire. Ça prend pas 13 minutes qu'on apprend que Canelo bat Munguia en mai, il va affronter Berlanga en septembre. Ça va, Canelo qui tire les ficelles de la WBA. Donc, on sait que Canelo affronte Berlanga pour la WBA en septembre. Mais qui est l'aspirant numéro 2 et numéro 3 derrière Berlanga? Christian Mbili, Eric Bazinian. Mais là, il y a plein de fauves autour qui veulent la place. Et ça nous prend des adversaires pour Mbili et Bazinian pour provoquer les choses. Hier, et c'est un lien que je fais, Sergei Derevyanchenko a battu Van Alexander par décision et il a très bien paru en voyant même une fois Alexander au tapis. Mbili, Derevyanchenko, ce serait de la folie. Les deux types un peu trapus qui aiment travailler à l'intérieur. Derevyanchenko, le technicien qui gaspille jamais de coups, est toujours à la bonne place, à la bonne jambe. 15-5. Il y a 4 défaites par décision partagée qu'il aurait pu gagner. Il a amené Golovkin à la guerre. Derevyanchenko mérite une dernière chance au sommet. Mais il faudrait qu'il batte notre Mbili, mettons. C'est pas fait, ça. C'est un combat 50-50. Et hier, il y avait Bektemir Milikouziev qui, lui, avait inventé l'eau chaude avant de se faire pincer par Gab Rosado. Milikouziev a battu hier Pierre Dibombe, le français, après 8 rondes au juge. C'est une coupure qui a arrêté le combat. Donc, tu as lui aussi là, qui attend sa chance. Fait que t'en as à peu près 9 qui attendent leur chance. T'as Munguia et Berlanga qui ont été les choisis de Canelo. Puis, on sait pas comment ça va finir. Pendant ce temps-là, tu as Benavidez qui monte à 175, Morel qui monte à 175 parce qu'ils sont tannés d'attendre. Incroyable. J'en reviens pas. Je suis assommé. C'était ta chronique boxe québécoise. Les nouvelles de la semaine, ou moi qui lis les nouvelles. Ryan Garcia a choqué le monde entier avec sa victoire. C'est sûr que c'est la nouvelle de la semaine. Le salaud nous aura trollé du début à la fin. C'est le chef des trolls. Il a fait tout ça en plus au Barclays Center à New York, devant 19 000, sur DAZN. Moi, je vais m'en rappeler, tenez-vous bien. Dans 50 ans, je vais m'en rappeler encore. Gervonta Davis, on en parlait tantôt. Le 15 juin prochain, j'en ai parlé, puis là, ben, je vais vous le dire. T'sais. Le 15 juin prochain, Gervonta Davis va affronter Frank Martin, Frank the Tank Martin, et David Benavidez va affronter Vostik pour un autre des... Ils sont fucked up, mais j'ai oublié qu'on n'était pas sur un podcast de rap. Beterbiev Bivol se battent le 1er juin prochain et ils nous organisent Vostik Benavidez pour un titre régulier. Radivoj Kalajvic contre Morel pour un titre régulier. Les deux, Morel et Benavidez, ont le point en commun de sauver parce que Canelo ne veut pas les affronter, sauf des 168 au lieu d'attendre. Et ils ont le point en commun d'être des anciens adversaires d'Arthur Beterbiev. Donc, je serais malade que Beterbiev ait 24 ans parce que là, Benavidez et Morel vont attendre, mais il ne pourra pas faire des super fights aux deux semaines. Ryan Garcia, il a pris un peu la façon de faire à Lomachenko, puis ben, sauf que lui était capable d'envoyer Anne au sol pour créer plus de points d'avance. Bon, Adrien Bruneau a engagé, tenez-vous bien, toute sa fortune sur Ryan Garcia. Il serait milliardaire aujourd'hui. Selon l'histoire, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a gagé. Ça me fait rire un peu, cette histoire-là. Il dit qu'il a gagé le 13$ au complet qui restait, puis qui est en banqueroute, puis qu'il aurait mis 13$ sur. Pour moi, on s'est fait troller par Bruner aussi, qui fait croire qu'il reste 13$. Le gars, que son surnom, c'était AB. Pas pour Adrien Bruneau, mais pour About Billion. Puis là, je l'ai bien prononcé en anglais. Puis là, il dit qu'il reste 13$, mais il a fait 39 engageant. Ben, peut-être même un peu plus. Donc, il a fait 10 fois sa mise à peu près. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma feuille, dans mon plan de match, OK? Ah oui, j'ai des affaires intéressantes pour vous. Il y a beaucoup de signaux en vue de l'Arabie Saoudite qui parle de Terence Crawford contre Israël Madrimov à 154. Madrimov, c'est pas un doux. Il est vraiment très bon. Puis, ce serait drôle de voir le mélange avec Crawford. T'sais. On se ferait comme envoyer un combat sorti de nulle part, mais qui stylistiquement est comme super intéressant. Genre, fait que je suis preneur. Je veux ce combat-là. Bon, là, ben oui, ça a été su après, quand vérifié. Là. Quand Garcia il cale une bière à peser, là, ben oui, c'était du jus de pomme. Tu sais, c'est vraiment enfantin, là, caler du jus de pomme dans une bière, mais moi, je suis tombé dans tous les pièges de cette histoire-là. Après le combat, il y a eu comme une obstination entre le père de Garcia puis Eddie Hearn, puis Eddie Hearn, il a fermé le clapet en disant « Ouais, ben venez affronter Jaron Ennis, vous êtes si fort que ça. » Puis là, on dirait que ça leur tentait plus, tu sais. Ils ont fait comme « qu'est-ce qui est arrivé d'autre dans cette semaine? Je vous vérifie ça en temps réel.
Jaron Ennis est prêt à affronter le monde entier. Mais est-ce que ce sera lui? Je sais pas. Je sais pas, à vrai dire, comment ça va finir. Sinon, on a appris que Katie Taylor et Amanda Serrano allaient être la demi-finale de Mike Tyson contre Jake Paul dans le plus grand combat de l'histoire de la boxe féminine, selon moi. Là. Puis selon Marie-Ève Albert, fait qu'on est deux à penser ça, que c'est une revanche historique. Et la semaine prochaine, les combats à surveiller. Y a pas grand chose. Hein. Y a Tim Zhu le 24 avril. Sinon, y a rien vraiment avant le mois de mai. Donc, c'était ton podcast préféré qui te dit bonne semaine. Et je vous aime tous, mais surtout Martine Vallière-Bisson.